territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je suis économiquement un bourgeois. Pour moi, ce qui constitue le bourgeois, c'est celui qui occupe une place sociale du côté des dominants, mais qui, par ailleurs, produit un système d'opinion destiné à légitimer sa position sociale. Alors c'est là que moi, je ne suis plus bourgeois. On ne peut pas dire que mon système d'opinion, les pensées que je peux exprimer ici ou là, dans les livres ou publiquement, soient destinées à légitimer l'ordre social existant et les inégalités. Après, se posait du coup un autre problème pointu pour un marxiste. Comme le marxiste considère qu'on a toujours l'idéologie de sa classe, je suis d'une classe mais je n'en ai pas l'idéologie, ce qui est une anomalie pour un marxiste. Donc il fallait bien que le marxiste que je suis rende compte de ça. Qu'est-ce que c'est que cette anomalie d'un type qui a un patrimoine bourgeois et qui n'en a pas pour autant l'idéologie ?
Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, second volet de cette conversation avec François Bégodeau. Aujourd'hui, autour d'Histoire de ta bêtise, essai qui date déjà de 2019, et donc publié dans Le Monde d'avant, mais qui m'a bien touillé en 2021. Toi qui connais cette émission née sur Radio Béton en 1993, tu sais bien qu'on y produit depuis bientôt 30 ans une contre-propagande anticapitaliste, et donc anti-bourgeoise. Mais tu sais quoi ? 25 ans de lutte et de manif contre la droite, contre la casse de nos conquêtes sociales, un quart de siècle à perdre et à se prendre des fessées, bah ça fatigue. De plus, l'épidémie de Covid et ses conséquences politiques et sociales ont bien enlaidi le paysage et bien tout embrouillé. Tout ça sur fond de derniers rapports du GIEC nous confirmant que Sapiens Sapiens et son biotope n'en ont plus pour très longtemps, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas un mal en ce qui concerne Sapiens. Alors je te l'avoue, tout ça me précipite dans la tentation d'un repli bourgeois à cultiver mon jardin en n'en ayant plus rien à foutre de rien, comme Candide. Ce 13 novembre 2021, l'association Goat Cheese, qui fête ses 11 années d'organisation de concerts punk rock, a la gentillesse de me proposer d'animer une rencontre avec François Bégodeau au cinéma Les Studios à Tours. Je viens de passer un mois à m'infuser Histoire de ta bêtise où Bégodeau fustige les multiples visages de la bourgeoisie, y compris celle qui se pense de gauche cultivée parce qu'elle vote PS ou écolo-compatible avec l'économie de marché. Mais une fois passé le cap ricanant de « mais qu'est-ce qui leur met dans la gueule aux bourges le Bégodeau ?» me demander dans quelle mesure, moi aussi, fils du peuple et de petits fonctionnaires, je ne serais pas à mes heures plus ou moins perdues. Moi aussi, un bourgeois qui s'ignorerait. En cette merdique époque d'incertitude et de colère, chasser le bourgeois, chasser le flic, chasser le censeur et le donneur de leçons qui sommeille plus ou moins en moi. Je me pointe donc au studio avec le moral politique au fond des chaussettes, non pas pour une interview, mais pour une séance avec le docteur Bégodeau qui ne se doute pas qu'il va m'offrir une psychanalyse de classe. Salut François.
Salut.
Alors je le racontais au précédent épisode, en 2002 j'ai été assez stupide et effrayé pour voter Chirac contre Le Pen. Et je me suis promis de ne plus tomber dans le panneau du vote soi-disant barrage ou utile. Et puis en 2019 je suis tombé sur une émission de télé où, scandale, évoquant le deuxième tour de la pestilentielle Macron-Le Pen de 2017, Bégodeau expliquait que lui non plus ne veut pas choisir entre la peste brune et le choléra ultralibéral.
Je ne me suis jamais prononcé sur le deuxième tour. Moi, je vote pas. Donc, je pense que publiquement, je n'ai jamais dit que je refusais d'aller faire barrage. J'ai dit que moi, je ne vote pas depuis 20 ans, c'est tout. Donc moi, la question de barrage ou pas, dans Histoire de ta bêtise, je revenais sur cet argument que nous sort la bourgeoisie toujours, que quand même, entre eux, effectivement, il faut aller voter contre le pire, etc. Là, j'essayais de resituer ce qu'est leur stratégie rhétorique à eux pour inciter un certain nombre de personnes à aller faire barrage à peu près tous les 5 ans. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais été concerné véritablement par ce débat-là. Et je dois dire que c'est un débat qui est pour moi très secondaire, là, l'histoire du vote et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait, de parler de ça. Là, c'était intéressant pour voir ce qu'était une constitution mentale fondamentale de la bourgeoisie, à savoir de toujours inventer un plus pire qu'elle pour pouvoir légitimer le fait qu'on continue à la soutenir. C'est un schème fondamental de l'idéologie bourgeoise qui vaudrait pour tout un tas d'autres choses, qui vaudrait pas simplement pour le deuxième tour, qui vaudrait pour le repoussoir, inventer tout un tas de figures diaboliques mondiales par rapport auxquelles la démocratie bourgeoise ou la démocratie libérale paraît d'un seul coup toujours désirable, quoi. Donc évidemment, dans le négatif d'un Poutine, la démocratie libérale paraît presque désirable, dans le négatif d'un régime chinois totalitaire, etc., etc. C'est une structure fondamentale de l'idéologie bourgeoise, c'est l'idéologie du moins pire. Et elle ne vaut que anecdotiquement au deuxième tour. Et j'allais plus loin dans le livre. Je disais qu'en fait, les libéraux n'ont jamais pu produire une défense d'eux-mêmes que négative. C'est-à-dire, c'est toujours par la négative. C'est-à-dire que c'est la fameuse phrase de Churchill, je crois, la démocratie est le meilleur des régimes à l'exclusion de tous les autres. Enfin, tu vois, ça a toujours été ça, la rhétorique. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne voient pas comment défendre positivement et affirmativement le capitalisme, qui est indéfendable positivement. Donc, leurs arguments sont toujours par la négative. Et j'en déduisais, parce que le livre portait sur la bêtise de la bourgeoisie, je disais qu'une pensée qui ne sait se défendre que par la négative, ça bêtit, bien sûr. Si tout ce que tu as à produire comme concept pour te défendre toi-même, c'est de dire que tu es quand même moins pire qu'un autre, je veux dire, on est dans la cour de récré quand la maîtresse tombe sur un enfant en lui disant « Ah, bah regarde ce que tu as fait comme connerie » et que l'enfant ne trouve pour sa défense à dire que « Ouais, mais regarde, lui, il a fait pire !» L'idéologie bourgeoise est une idéologie d'enfant. Elle a une espèce de vacuité conceptuelle qui finit par créer d'ailleurs un vide intellectuel tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que c'est toujours très très intéressant de se demander s'il existe de grands intellectuels libéraux. Il n'y en a pas en fait. Moi, les libéraux sont, disons, les idéologues du capitalisme. C'est ça que j'appelle le libéralisme. C'est une espèce de production conceptuelle au service de la légitimation du capital. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de grands intellectuels libéraux puissants. Il y a des grands intellectuels d'extrême droite, de droite réactionnaire, de droite royaliste, de droite catholique. Il y a des grandes figures, des grands écrivains dans l'histoire. Et évidemment, il y en a énormément du côté de la gauche radicale, d'une espèce de tradition anarchiste ou marxiste ou des choses comme ça. Mais là, il y a une espèce de trou conceptuel au milieu du champ intellectuel. C'est à ce titre-là que ça m'intéressait de revenir anecdotiquement sur le vote du deuxième tour. Mais en soi, moi, ça ne me passionne pas plus que ça.
François, en lisant Histoire de ta bêtise, c'est pas que je me sois senti vengé. Moi, c'est ni peste ni choléra. De toute façon, votre truc est un simulacre démocratique. J'ai moi-même l'habitude de me faire traiter de nazi étant rouge. Évidemment, hein, les extrêmes se rejoignent. Hitler égale Staline, donc le communiste, c'est pareil que le nazisme. Pop, 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 tu connais. J'aime beaucoup ta quatrième de couverture sur ton dernier Notre joie. Non, les extrêmes ne se rejoignent pas. Ça fait plaisir de le lire parce que on le dit depuis environ une vingtaine d'années avec André dans l'émission. Bon, alors c'est pas que je me sois senti vengé parce que je suis assez grand pour porter mes opinions et après tout, le seul contre tous, j'en ai rien à foutre, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ça m'a quand même fait plaisir de voir ce mec, donc qui était toi, surgir sur les plateaux télé pour dire non, attendez, ni peste, ni choléra. Malgré tout, ça m'a fait du bien, voilà, pour quelqu'un qui affronte régulièrement des gens verbalement, des gens qui, tous les 5 ans, se souviennent que Hitler n'était pas très gentil, puis après ils oublient pendant 5 ans. Au-delà de ça, dans Histoire de ta bêtise, tu fustiges tous ces visages de la bourgeoisie, notamment cette nouvelle bourgeoisie qui se croit tellement cool par rapport à la bourgeoisie réactionnaire traditionnelle décrite dans les romans du 19e et machin. Bah non, nous on n'est pas ces vieux ringards qui fument des cigares à chapeau de forme et qui font suer le burnou aux ouvriers, on est cool. Mais passer le cap de « Ah ah, qu'est-ce qui leur met Bégodo ?» Vu que Histoire de ta bêtise est construite sur ce tu, cette adresse, page après page, j'ai fini par moment par me sentir interpellé. Putain, le salaud! Mais il me parle! Je me rends compte que j'ai été sûrement bien sérieux quand j'ai lu l'histoire de ta bêtise. Je me disais par moment, fais attention parce que le mec est certainement sarcastique.
C'est un petit peu le danger de l'écriture, effectivement, du noir sur blanc, puisque un livre, c'est des phrases, et c'est très froid un livre, parce que les phrases, effectivement, n'indiquent pas leur mode d'emploi, n'indiquent pas leur tonalité. Il n'y a pas d'accompagnement comme ça. Alors, il y a tout un tas d'expédients qu'ont trouvé les écrivains, certains écrivains, pour signifier la tonalité à leur lecteur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est autant d'expédients que je n'aime pas. Par exemple, les guillemets, par exemple aussi une surcharge stylistique. Quand c'est ironique, ça va s'entendre. On va en remettre des couches, quoi. Et moi, j'aime pas mettre des couches. Moi, j'ai une écriture assez épurée, et donc mon écriture est risquée pour ça. Son ironie, souvent j'écris ironiquement, pas toujours, c'est une ironie très rentrée. Il est parfois assez difficile de discerner entre une phrase de Bégodeau qui soit ironique et une phrase de Bégodeau qui ne le soit pas. Je ne développe pas une espèce de signalétique à l'usage de mon lecteur pour lui dire « On est bien d'accord que c'est de l'ironie, là, je suis en train de me bien me les taper, les bourgeois, puisqu'on parle d'histoire de ta bêtise. » Et donc, évidemment, ça peut générer des contresens, ça peut générer des malentendus. Mais je ne lâcherai pas parce que je ne me vois pas surcharger ma prose pour la rendre plus claire ou plus explicitement ironique. En plus, je n'aime pas l'ironie lourde. Moi, je n'aime que l'ironie légère. J'aime que l'ironie qui se voit à peine. L'ironie, pour moi, c'est vraiment mais un tout petit grain très infime dans la phrase qui signale qu'il y a probablement quelque chose là qu'il ne faut pas lire complètement au premier degré. Mais il ne faut pas en faire plus, quoi. C'est un pari sur l'intelligence du lecteur, sur sa finesse, sur le pari parfois raté. Il y a des malentendus, mais bon, c'est un petit peu le lot de l'écriture en général, quoi.
Ça peut s'interpréter, l'histoire de ta bêtise, se lire sur scène, parce que finalement, je me suis amusé à en lire des passages comme ça à haute voix, et d'ailleurs, c'est là que je me suis bidonné. Putain, il m'a couillonné.
Il y a une amie à moi qui est metteur en scène, qui a déjà mis en scène une pièce de moi.
T'as pas demandé à Lucchini de le lire ?
Non, il a pas voulu, il trouvait ça trop de droite. Et puis il n'y avait pas de citation de Jean de La Fontaine dedans, donc du coup il y perdait son latin. Non mais ça a été, il y a eu une mise en voix, voire même une mise en scène sur les tabétistes, qui a été jouée le même jour, la conférence que tu as vue, un peu drôlatique là, ouais. Au rond-point, le soir même, il y avait ensuite un comédien qui a fait Histoire de ta bêtise, enfin un découpage du texte. Précédemment, il y avait eu une lecture faite par un autre comédien à Avignon, donc l'idée que ce puisse être un texte théâtral, parce qu'effectivement Valérie Gray, il rigolait plutôt, oui, parce que là c'était incarné, et puis en plus le comédien du coup en rajoute un petit peu, parce que du coup ça s'incarne, et les effets d'ironie étaient là, et puis bon, le public était en plus préconvaincu, donc il y a toujours un côté, une espèce de rire comme ça, un peu de connivence. Mais le texte, sa théâtralité vient évidemment de l'adresse, puisque tout le texte est construit sur un « tu ». Il n'y a rien de plus théâtral qu'une adresse comme ça, tu. Le tu pouvant être potentiellement le public d'ailleurs. Ce avec quoi on peut jouer au théâtre pour dire, mais finalement ce tu c'est peut-être toi. Bon.
Est-ce qu'il n'est pas en train de me parler à moi ? Pour reparler de l'école par exemple, quand j'étais élève, parce qu'on m'avait dit que si je travaillais bien à l'école, plus tard j'aurais un beau métier, que je gagnerais de l'argent et que je galérerais pas. Quand sorti du système scolaire, je me suis retrouvé avec bac plus 4 à faire la planche dans un restaurant et que les gars qu'on avait envoyés en CPPN, ils se gagnaient une brique par mois à faire plombier à Paris, je me suis dit tiens, le système scolaire m'a peut-être joué un tour là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être bon élève, un élève bourgeois.
Oui, moi à un moment je disais dans le livre d'ailleurs, parce que il y avait le tu, puis des fois je parlais quand même de moi, je me mettais en scène moi comme je, pour me poser quelques questions, parce que ça me paraissait éthiquement nécessaire d'un moment me poser la question, mais moi, et d'où est-ce que je parle, moi qui suis en train d'interpeller un bourgeois, d'établir grammaticalement une espèce de distinction nette entre lui et moi, puisque lui, il est tu, moi, je suis je. Il y avait quand même un moment où il fallait que j'aie, mais moi, dans tout ça, moi, où est-ce que j'en suis, moi, par rapport aux classes sociales? Moi, je suis de quelle classe sociale, en fait? Et donc, je parlais de ma vie, je parlais de mon patrimoine, mes revenus.
Ton appartement coûte plus cher que ma maison. Hein.
Mon appartement coûte plus cher que pas mal de maisons et que pas mal d'appartements. Et de toute façon, mes revenus annuels me situent du côté de la bourgeoisie. Donc je suis économiquement un bourgeois. Ce qui était quand même important de le dire. Pour moi, ce qui constitue le bourgeois, c'est celui qui occupe une place sociale du côté des dominants, mais qui par ailleurs produit un système d'opinion destiné à légitimer sa position sociale. Alors c'est là que moi je ne suis plus bourgeois. En tout cas, il me manque le deuxième pan quand même, puisque on ne peut pas dire que mon système d'opinion, les pensées que je peux exprimer ici ou là, dans les livres ou publiquement, soient destinées à légitimer l'ordre social existant et les inégalités. Donc là, il y avait quand même une petite coupure. Après, se posait du coup un autre problème qui est un problème pointu pour un marxiste. Comme le marxiste considère qu'on a toujours l'idéologie de sa classe, moi j'étais quand même en train de dire « je suis d'une classe mais je n'en ai pas l'idéologie », ce qui est une anomalie pour un marxiste. Donc il fallait bien que le marxiste que je suis, en tout cas, je peux être intéressé par le marxisme, ben, rendre compte de ça. Qu'est-ce que c'est que cette anomalie d'un type qui a un patrimoine bourgeois et qui n'a pas pour autant l'idéologie ? Donc je produisais quelques explications à ça. Il y en avait une qui était que je n'ai pas d'enfant, par exemple. Je pense que ça joue.
Le système bourgeois, c'est quand même ça aussi. C'est accumuler du capital pour le transmettre.
D'avoir des enfants vous responsabilise par rapport au corps social. Si jamais vous avez eu une adolescence ou une jeunesse un peu subversive, où vous n'étiez responsable que de vous-même. Et dans ce cas-là, on peut épouser des modes de vie un petit peu interstitiels ou un peu marginaux. À partir du moment où vous avez des enfants, tous les gens qui ont des enfants le disent. Et ce n'est pas leur jeter la pierre que de le dire. Ça vous met un, voire deux pieds dans une sorte de conformité sociale, puisque vous allez, à ce moment-là, produire énormément de gestes de conformité, quel que soit votre fort intérieur. Même si vous êtes resté un anarchiste au fond de vous, bah, au bout du compte, vous mettez vos enfants à l'école. Au bout du compte, vous les faites soigner dans les règles de l'art. Vous allez les inscrire au sport, ce qui en soi n'est pas répréhensible, mais vous vous socialisez en fait. et vous multipliez les interfaces entre vous et la société. C'est ça qui vous embourgeoise, en fait. Alors qu'effectivement, quand on vit seul, comme c'est mon cas, et on n'a pas d'enfants, j'ai beaucoup moins d'interfaces avec la société. Je n'ai pas mes enfants à soigner, je n'ai pas mes enfants à mener à l'école ou au judo. Ça permet de rester relativement irresponsable, de ne pas avoir d'enfants. Donc c'était une des explications que je donnais, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a mon côté lecteur, il y a mon côté un peu porté sur les choses de l'art, qui, je crois, quand même entretient une sorte de... Non pas de marginalité, hein, évidemment pas, mais en tout cas de rapport un peu déconnecté quand même du système marchand. Quand vous êtes en train d'écrire un livre, c'est un geste qui vous met quand même en relative marge par rapport aux échanges marchands ordinaires. Quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'hypothèses comme ça que je produisais, mais c'était important pour moi dans ce livre qu'il y ait un moment où je fasse une espèce d'auto-examen sociologique quoi, et idéologique. Et peut-être aussi en admettant que, bien sûr, dans le tu que je portraiturais, il y avait probablement une part de moi aussi. D'une certaine manière, je partageais quelques espaces sociaux avec ces gens. C'est bien là que je les avais rencontrés. C'était essentiellement dans le champ culturel, d'ailleurs. Que ce soit dans une équipe d'émissions de télé à laquelle j'ai participé un moment comme critique de cinéma, ou faisant telle ou telle chose. C'est là que je les ai croisés dans le milieu du théâtre. Par exemple, j'écris du théâtre, dont bon, le théâtre est un milieu relativement bourgeois. Donc là, j'ai pu en croiser, et moi, j'étais partie prenante aussi. J'en étais. Donc faut toujours, c'est toujours très intéressant de faire sa propre sociologie. Quoi. Ça me paraît un geste absolument nécessaire. Ce qu'on appelait dans les années 60, commence par bien définir d'où tu parles. Voilà, quelle est ta position sociale, d'où est-ce que tu émets tes opinions quoi. Au nom de quoi tu parles? Au nom de quelle position sociale? Ça, c'est très important. Parce que sinon, on produit une espèce de discours un peu comme ça, à distance de ce qu'on est en train de décrire. Mais on est pris tous dans la société. Moi, je suis pris dans la société aussi. La question étant de savoir jusqu'à quel point. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut ne pas être totalement dépendant de l'ordre social qu'on dénonce?
Je me suis reconnu aussi en tant que bourgeois, c'est pas tant évidemment en termes de patrimoine, parce que nous, une famille de petits fonctionnaires, mais j'ai pas eu à lutter pour la culture. Mes parents me l'ont apporté sur un plateau d'argent. Les expositions, Robert Desnos, le cinéma de Kurosawa, les Rolling Stones, tout m'a été donné. J'ai pas eu à lutter pour avoir tout ça, et j'ai même eu des billes pour aller en chercher d'autres. Donc je me suis reconnu aussi là, en tant que héritier d'un capital culturel. Autre point, comme certains cathos font semblant de croire que la dame allait tomber enceinte sans coucher, puis que le monsieur il est mort et qu'il a ressuscité après, tout en sachant que c'est pas vrai, je continue à croire à vaguement une utopie démocratique qui n'a jamais existé, hein, puisqu'en 89, le peuple a juste changé d'oppresseur. Mais malgré tout, ça fait un certain temps que je suis pas allé faire mes entraînements paramilitaires, je serais bien incapable de démonter un AK-47 les yeux bandés, parce que je veux dire, voilà, si on se parle pas dans un parlement, c'est ça, quoi. C'est les barricades, c'est les armes à feu, je sais pas m'en servir, je suis assez nul en sport de combat, si je me lance là-dedans, on va perdre. Donc le simulacre démocratique me semble encore moins pire qu'une guerre civile ouverte à laquelle je serais certainement pas bon.
Moi je pense qu'il y a quand même des situations intermédiaires entre la guerre civile et le vote. Et ces situations intermédiaires s'appellent les mouvements sociaux, s'appellent les mouvements sociétaux, s'appellent les femmes qui descendent dans la rue dans les années 60 et qui finissent par obtenir, par faire pression sur... les instances législatives pour pouvoir obtenir la dépénalisation de l'avortement, la légalisation de l'avortement même. Cet espace-là, il existe et il n'est pas forcément violent. Et alors, évidemment, il y a une conflictualité, il arrive qu'il soit violent au sens où il y a peut-être un moment, ça va se mettre sur la gueule entre les forces de l'ordre qu'envoie le pouvoir aux contestataires et les contestataires en question. L'histoire des mouvements sociaux est remplie de ce genre de violences, mais qui sont des violences qui incarnent la conflictualité sociale. Il y a eu des morts parfois, il y a eu des blessés, il y a eu des heurts, mais c'est quand même des violences qui ne sont pas de l'ordre de la guerre civile, qui ne sont pas de l'ordre de la guerre tout court, c'est pas 14-18 quoi, qui est une boucherie où des millions de gens meurent sans qu'il y ait aucun enjeu de progrès social. Donc,
j'ai remarqué que les contemporains font souvent l'amalgame, une confusion entre la violence et le rapport de force.
Sauf que, si tu veux, les zadistes imposent un rapport de force aux forces qui voudraient qu'il y ait par exemple un aéroport dans cet espace-là, donc qui voudrait bétonner des zones humides par exemple. Voilà. Donc les zadistes imposent un rapport de force. Bon. Et puis après, ils occupent cette zone, qu'ils appellent du coup une zone à défendre, en imposant un rapport de force à l'État qui ne supporte pas qu'on s'approprie des terres de façon illégale du point de vue du cadastre. Donc là, le rapport de force est imposé. Si jamais l'État dit à ce moment-là, OK, on renonce à l'aéroport et ces terres, on vous les laisse, ben, du coup, il n'y a pas de violence. Il n'y a de violence qu'à partir du moment où l'État en fait un sujet obsessionnel et qui envoie la troupe. Et là, il y a des violences. Là, il y a des cabanes qu'on détruit. Et là, il y a des animaux qu'on martyrise. Là, il y a des gens qu'on blesse. La violence vient beaucoup du fait que la classe dominante se défend. Parce que si elle ne se défendait pas, il n'y en aurait pas. Donc, bon, je veux dire, il n'y a pas de plaisir, je pense, du côté des mouvements sociaux à produire de la violence. Mais ces violences-là, moi, ne me font pas peur. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu considères que véritablement, il y a des intérêts divergents dans une société, et c'est fort comme terme, c'est-à-dire que ça sera eux ou nous. Ils veulent réformer l'assurance chômage, hein, c'est-à-dire de rendre les indemnités chômage de plus en plus difficiles à acquérir, c'est-à-dire en gros fliquer les chômeurs toujours plus, leur imposer le retour au travail dans n'importe quelle condition de plus en plus. C'est ce qui va se passer dans le mois à venir. Soit cette réforme passe, soit elle passe pas. C'est pas un peu l'un ou un peu l'autre. Et elle passera si on arrive à imposer un rapport de force de sorte qu'ils finissent par la retirer, ou inversement, bon, voilà. Et si eux, ils tiennent absolument à leur assurance chômage et que le mouvement perdure, si mouvement il y a, ce qui n'est pas sûr par les temps qui courent, eh ben, il y aura un moment des conflictualités plus incarnées. C'est-à-dire, il y aura des coups. C'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est pas parce que les méchants révolutionnaires sont des gens qui ont la violence dans la peau. C'est parce que dans la société, il y a des intérêts profondément divergents. Sur la question écologique, cette question est éminemment brutale. Puisque globalement, on n'arrivera à s'en sortir que si nous rentrons dans une logique qu'on va appeler de décroissance. Le mot est sujet à caution, mais je dis que le capitalisme est fondamentalement croissant. Donc en fait, pour arriver à rentrer dans un processus de décroissance, il va falloir véritablement imposer un rapport de force au capital. Ça nous promet des grands combats, hein, des combats extrêmement violents. Comment faire autrement? La seule façon qu'il n'y ait pas de violence, c'est que le capital, miraculeusement, dise « ouais, ok, très bien ». Jusqu'ici, ça fait 600 000 ans qu'en fait, la seule chose qui nous mobilise véritablement comme capitalistes, c'est les perspectives de croissance. Et d'un seul coup, nous acceptons de muter, par une espèce de miracle, en économie décroissante. Évidemment que ça n'arrivera pas. Et donc, il y aura des violences. Ou alors, ils gagneront, sans contradiction. Et du coup, le vivant perdra. La question de la violence, c'est une question qui doit être posée en ces termes-là. Elle ne doit pas être posée sur le mode « moi, j'aime pas la violence, ah, ouais, mais moi, je l'aime bien ». C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'aime pas la violence, moi. J'aime pas m'en prendre dans la gueule, j'aime pas en mettre non plus. Je n'ai pas spécialement envie d'égorger les bourgeois. C'est pas un fantasme que j'ai. C'est un fantasme que je trouve débile, d'ailleurs. Mais c'est l'état même des choses qui appelle la violence. C'est pas autre chose, en fait.
Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de lard. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on n'a pas. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, est dur et pérennaire pour une poignée de billets verts. Oui, les patrons, c'est comme les cochons.
Les patrons, c'était les Sales Majestés, avant de retrouver François Bégodeau autour de son histoire de ta bêtise. On est encore sur un autre point où je me suis reconnu dans Histoire de ta bêtise. Il se trouve que j'ai bossé et que je suis devenu propriétaire d'une maison. Et ouais, ça me ferait chier de la perdre. Me v'là en beau bourgeois propriétaire.
Ben moi, par exemple, ça ne me poserait aucun problème, vraiment aucun problème, que demain... On me prive de la propriété de cet appartement. Par contre, j'aimerais bien en garder l'usage, puisque j'ai besoin d'un toit. J'ai pas envie de dormir dehors, en fait. Et je considère que le droit au logement est un droit universel. Donc c'est un 42 mètres carrés. C'est pas d'un grand luxe. Il vaut cher parce qu'il est dans le 11e arrondissement à Paris. Et que les prix du mètre carré sont délirants. Mais en soi, c'est quand même pas grand-chose. Vivre tout seul dans un 42 mètres carrés, on peut pas dire que ce soit une espèce de preuve d'aisance bourgeoise extraordinaire. Le seul truc qui me met du côté d'une aisance bourgeoise, c'est précisément la propriété. Donc je peux le revendre demain, et je peux le revendre pour 400 000 euros. Donc évidemment, ça me met très à l'aise. Mais moi, si on me dit demain que tu vas pouvoir habiter cet appartement jusqu'à la fin de tes jours sans que personne t'emmerde, par contre, c'est plus à toi. C'est une location, mais moi, ça me va très bien. La propriété en soi, j'y suis absolument indifférent. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Après, on pourrait prendre d'autres exemples. Par exemple, il y a quelque chose qui me paraît totalement inique. C'est ce que Bernard Friot et d'autres appelleraient la propriété lucrative. C'est-à-dire non pas une propriété d'usage, comme moi j'ai. J'habite et j'ai l'usage de là où j'habite. Par contre, je possède un appartement, je ne sais pas où. Je ne l'occupe jamais, simplement je le loue. Et je touche le bail. Ça, c'est la propriété lucrative. Alors ça, c'est totalement injuste. Je gagne de l'argent en faisant rien. En faisant rien du tout. En plus, c'est même pas moi qui ai fait les tractations, puisque en général, il y a les agences qui s'occupent de ça à votre place. Il arrive même que tout un tas de propriétaires lucratifs ne voient jamais l'appartement qu'ils possèdent. C'est le cas de mon père, qui en possède un, qui vient de vendre d'ailleurs, mais qu'il a possédé pendant 15 ans. Donc, il a touché les loyers pendant 15 ans. Il n'a jamais vu cet appartement. Je veux dire, si j'étais dans cette position-là, moi, j'accepterais très volontiers qu'une collectivité qui tend au communisme, c'est-à-dire à la mise en commun des biens nécessaires, des biens absolument vitaux, c'est ça le communisme, c'est pas autre chose, j'accepterais très volontiers de céder l'appartement dont je tire des revenus qui ne soient pas du tout adossés à un travail. Ça, voilà. Là, je pense que chacun doit faire un petit peu son petit examen personnel de ses positions par rapport à ces questions-là. Après, je comprends qu'un certain confort, on y tienne beaucoup. Bon, d'ailleurs, je pense qu'un communisme bien compris et intelligent, ce que d'ailleurs ce à quoi ont accédé quelques pays qui tendaient à ce système-là, acceptait et tolérait la petite propriété ouvrière, la famille d'ouvriers qui, en ayant sué quelques années, finit par acquérir un petit pavillon, ça va quoi. Il n'y a pas à acheter la pierre à ça. Ce qui est important surtout, c'est la propriété des moyens de production, comme on dit dans le marxisme. Que la gestion de l'eau, des énergies essentielles, de l'alimentation, du logement, soit entre les mains de marchands, voilà qui est tout à fait une anomalie. Encore une fois, ce n'est pas autre chose le communisme, c'est toutes ces choses qui concernent les coordonnées vitales fondamentales de la vie ne devraient pas être entre les mains de marchands.
C'est la lutte finale, groupe pour nous. Et demain, la Terre nationale sera le genre humain.
Point où je me suis senti interpellé, sur lequel j'ai cogité, méritocratie. Mes grands-parents, pendant la guerre d'Algérie, le grand-père était en tôle pour agitation communiste et osait sortir un tract. Et pour faire bouffer la famille, ses deux enfants, ma grand-mère faisait les ménages. Et puis du côté maternel, on s'est arraché à la terre et ma grand-mère maternelle est devenue receveuse des postes. Ascension sociale. Travaillait bien à l'école, machin, etc. Et là, j'en reviens aussi au capital culturel dont j'ai hérité. Donc je vois bien que les dés sont pipés et que à cet égard, j'avais plus d'armes que bien d'autres. Cela dit, travailler à Radio France, à faire de la radio avec toi aujourd'hui, etc. Ça m'a pas non plus été livré sur un plateau, même si j'avais des armes qui m'ont été léguées. Mais je me trouve méritant, en fait.
Il y a deux étages à cette fusée du mérite. Un étage purement social, on va dire, strictement social, en tout cas social dans un sens étroit, qui est effectivement ce que tu viens de dire. Tu pourras toujours dire que d'une certaine manière, entre là où tu es arrivé et ce qu'on t'avait donné au départ, il y a eu quand même un gain personnel. Cette chose serait éminemment discutable, mais je veux bien te l'accorder, si ça te fait plaisir, pour ton amour propre. Après, il y a un étage beaucoup plus fondamental de la chose. En admettant donc ce à quoi tu es arrivé, tu y es arrivé à la fois par ton capital culturel hérité, mais aussi par ce que tu appellerais ton mérite, c'est-à-dire quelque part un peu ton talent, tes capacités propres.
Et puis d'autres facteurs. Par exemple, je suis blanc de peau et pour travailler à Radio France, c'est plus pratique que quand t'es bronzé.
Il y a des facteurs en genre. Mais je pense qu'en dernière instance, tu dis donc bien qu'il y aurait quelque chose de l'ordre du talent personnel, en tout cas de la capacité personnelle qui a dû jouer dans cette affaire.
Mais alors, je suis cassé le cul.
Ça, c'est l'idéologie du travail qui est adossée à l'idéologie du mérite. Il y a eu un moment, j'ai bossé, quoi. J'ai bossé. Et donc, si tu as bossé, c'est que tu avais une capacité de travail, ce qui est une forme de talent. Mais alors moi je te dis, mais ta capacité de travail, tu en as hérité aussi, cher ami. Ta capacité de travail, tu l'as sans doute très largement hérité de ton milieu éducatif et de ce qu'on t'a inculqué à l'école. Mais en admettant, encore une fois, qu'il y ait une part de personnel là-dedans, c'est la notion de personnel qui m'intéresse, je dis, mais de ça aussi tu as hérité, mais tu en as hérité par les lois, à la fois hasardeuses et nécessaires, de la génétique. Moi, je pourrais dire que c'est Dieu qui t'a prêté cette vie, c'est Dieu qui t'a prêté ce talent. Les méritocrates n'aiment pas le génie. La notion de génie, qui est une notion aristocratique, donc anti-méritocratique, ils ne l'aiment pas. C'est comme ça qu'émerge la bourgeoisie au XVIIIe. Il y avait l'aristocratie qui prétendait qu'elle tenait sa supériorité du sang. Au moins, elle était honnête. Nous avons un sang supérieur. Et ça légitime le fait que nous ayons les terres et que vous, vous ne les ayez pas. Les bourgeois arrivent et mettent le mérite et le travail là-dedans. Ils disent, pas du tout, c'est pas le sang qui fait que, c'est notre mérite personnel, c'est notre travail, c'est les valeurs de la bourgeoisie. La méritocratie, c'est une valeur bourgeoise. C'est vraiment ça qu'impose la bourgeoisie du XVIIIe. Et c'est les Lumières parlent beaucoup de ça. Barthes avait écrit un article très très bien là-dessus, sur Flaubert comme écrivain bourgeois. Je dis ça en tant que fan de Flaubert, mais écrivain qui avait quand même imprégné les valeurs de la bourgeoisie, parce que insistant beaucoup sur son travail. Flaubert a été très très loquace sur le fait qu'il suait sang et eau pour cracher Madame Bovary, ce qui est d'ailleurs assez vrai. J'ai bossé. Ben oui, mais Gustave, ta capacité de travail, d'où tu la sors? Mais c'est pas toi qui l'as inventé, ta capacité de travail. Ta capacité de travail, tu l'as reçue. Tu l'as reçue de Dieu, de l'utérus, du sperme de ton père, de tout ce que tu veux, mais tu n'en es pas du tout le responsable. Tu ne peux pas en tirer mérite. Tu ne peux pas t'honorer et te gratifier d'un talent. Si vous prenez Zidane, je vois bien que les méritocrates adorent dire que Zidane a beaucoup bossé. C'est-à-dire qu'il est génial, il est super joueur de foot, tout ça. Ouais, mais il a bossé. Il faut toujours sauver la valeur travail. Parce que ces gens-là n'arrivent pas à voir l'évidence que Zidane est génial tout de suite. Avant même de travailler, c'est un joueur de foot. À 5 ans, il est déjà en train de dribbler tout le monde. D'où vient le talent de Zidane? Il vient de l'espace. Moi aussi, je pourrais dire la même chose à propos de mes livres. Moi, j'écris des romans, en plus, c'est long. Moi, je travaille, j'ai une capacité de travail, quoi. Je mérite. C'est normal que je vive de ma plume, parce que quand même, qu'est-ce que j'y mets comme sang? Ma capacité de travail, moi, je ne sais pas d'où je la sors. J'ai eu la chance d'hériter. Donc, pour résumer, tout ce qui nous constitue, nous en avons hérité. Soit culturellement, socialement, soit métaphysiquement. À ce titre-là, la valeur mérite n'a aucun sens. Et donc, en aucun cas, on peut organiser la distribution des richesses par rapport à cette valeur. Ben ça, c'est l'énoncé le plus subversif qu'on puisse prononcer contre la bourgeoisie. Il n'y a pas de mérite. L'hypothèse du mérite n'est pas tenable. Et comme votre édifice social repose sur cette hypothèse, votre édifice social est totalement à revoir. Il repose sur rien. Voilà. Donc, par exemple, on pourrait envisager une distribution des richesses qui serait autre, qui serait non pas en fonction des mérites des uns et des autres, mais en fonction des besoins des uns et des autres. Et aussi en fonction des besoins de la communauté, du collectif. Voilà ce que propose la seule alternative possible au capitalisme. Ce n'est pas autre chose ce qui est proposé. C'est qu'il y a une réorganisation de la distribution des richesses en fonction d'un critère qui ne soit pas du tout celui du mérite ou de tout ce que la bourgeoisie a inventé pour légitimer ses positions sociales, encore une fois. L'école ayant été effectivement le chef-d'œuvre de la méritocratie. Parce que l'école a remis le mérite au centre. Fut un temps, on naissait pauvre, on naissait riche, et puis c'était comme ça, quoi. L'école redistribue les cartes, censément. Quelqu'un qui est médecin pourra toujours s'honorer d'avoir travaillé à l'école. Et à quelqu'un qui est chômeur, ou qui occupe un poste de merde, mal payé, on pourra toujours dire, écoute, c'est vrai que c'est con, c'est dommage pour toi, je compatis, ça doit être chiant de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, mais t'as quand même pas bossé à l'école, quoi.
On n'est pas égaux, hein. On n'a pas tous les talents.
Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait des handicapés, par exemple? En réfléchissant aux handicapés, on comprend tout le reste. Nous admettons tous, alors sauf quelques nazis eugénistes qui traînent dans des coins, nous admettons tous qu'un handicapé, il n'a vraiment pas de chance de l'être. S'il est né avec un handicap ou s'il a eu un accident vraiment qui l'a handicapé, nous admettons tous que nous devons fournir un effort pour que cet handicapé puisse avoir une vie sociale à peu près cohérente. D'accord ? Mais il faudra le considérer pour tout le reste. C'est ce que je dis dans mon dernier livre. Fondamentalement, j'ai eu à la fois beaucoup de bol socialement parce que j'avais un capital culturel, éducatif, tout ça, en tant que fils de prof. Mais il y a un truc quand même où j'ai pas eu de cul, c'est que ce qui m'a le plus passionné quand j'ai eu 18-20 ans, c'était un domaine qui était pas lucratif, pas valorisé dans le système marchand. C'était le punk rock. Et l'autre truc que j'aimais beaucoup, c'était la littérature, qui n'est pas vraiment lucratif non plus. On peut pas dire que ce soit énormément valorisé dans le système marchand. Ben, c'est pas de ma faute. Je suis comme l'handicapé. Moi, j'étais un handicapé social. Alors que si j'avais eu un talent ou une vocation, une espèce de fibre pour la chirurgie, immédiatement, je pouvais me faire valoriser dans le système marchand. J'ai pas eu de cul, moi. C'était pas la chirurgie, mon truc, c'était le punk rock. Ou Flaubert, la littérature. Donc je considère que j'ai pas eu de cul, c'est pas de ma faute. Et je ne vois pas pourquoi je devrais en payer les conséquences d'une espèce de distribution des capacités qui, hélas, n'était pas congruente avec le système de valeurs marchandes. Alors qu'effectivement, le mec qui a une fibre entrepreneuriale, quoi, il a le commerce dans le sang, tu vois. Bah lui, de fait, la société est faite pour lui, quoi. Il pourra créer une entreprise, la valoriser, aller faire de la tchatche à deux ou trois banquiers, parce que c'est un peu par ça le commerce quand même, hein. C'est quand même aller convaincre des banquiers, hein. Donc le mec y arrivera et il pourra faire fortune. Moi, je ne pouvais pas faire fortune avec le punk rock. Et ce n'est pas de ma faute. Donc nous sommes très inégaux devant des capacités, nous n'avons pas les mêmes capacités, et nous sommes surtout inégaux devant le système de valorisation des capacités dans lequel nous tombons. Moi, je suis né dans cette société-là, où il est tout à fait valorisé par le marché d'être le créateur d'une entreprise de semences chimiques. C'est très valorisé, hein, c'est très lucratif. Et par contre, il n'est absolument pas valorisé d'aimer les clashs et de vouloir faire pareil. Et ceci n'a aucune légitimité.
Bon, alors sur ce chapitre méritocratie, je partage l'envie de François de dynamiter le système bourgeois. N'empêche que je suis absolument pas d'accord, parce que du cosmos ou des couilles de ton père, tu peux recevoir une capacité de travail et aussi ne rien en faire. Enfin bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Encore un point où je me suis reconnu dans Histoire de ta bêtise, mais ça, c'est un truc que je dis très régulièrement aux potes, parce que j'aime bien la caricature. Mais chez moi, l'humanisme, pourtant j'ai été éduqué par des gens humanistes, je suis d'ailleurs toujours éduqué par des gens humanistes, mais chez moi, c'est pas une construction spontanée, c'est une construction quotidienne. Il peut m'arriver de me réveiller dans la peau d'un sale con, et que je suis obligé de prendre plusieurs cafés et fumer plusieurs clopes pour remettre tout ça en état et me dire non, attends, souviens-toi du dernier article du Monde Diplomatique, de cette analyse, c'est des histoires de misère et de manipulation et de géopolitique. Mais il me faut un certain nombre de clopes et un certain nombre de cafés le matin pour reconstruire tout ça. Et ce que je dis aux potes, vous savez, le racisme, la haine du barbu, des belphégorbes que je peux croiser à Intermarché et qui me révulsent, etc. Cette tolérance-là, je dois la construire au quotidien. Et moi, je dis aux potes, souvent, c'est le racisme. Le premier endroit où je le traque, c'est pas chez les autres.
Pardon, mais le mot humanisme me laisse un peu quoi et perplexe. Je sais pas ce que t'entends par là.
J'ai été élevé par des braves gens qui m'ont dit qu'il fallait être généreux, gentil et tolérant.
Tu sais, la dernière fois que j'ai entendu parler de braves gens, c'était dans la bouche de Michel Onfray, ce qui est pour moi une façon définitive de disqualifier cette expression. Je préfère ton exemple sur le racisme, effectivement.
Quelles pensées épouvantables me sont passées par la tête pendant 15 jours après, je sais plus quoi, si c'était Charlie ou le Bataclan. C'était horrible, je me faisais peur à moi-même.
C'est un geste intellectuel très honnête de ta part et très nécessaire que de dire, au fait, nous sommes tous à un moment ou à un autre traversés par exemple par des affects racistes. Que ce soit quand tu vas à Intermarché et que tu vois des femmes voilées intégralement ou pas, ou après Charlie, ou effectivement... un certain nombre de mecs et de nanas qu'on aimait bien ont été canardés par deux Arabes plus ou moins allumés. Voilà, mais ça c'est tout à fait normal. Jusqu'ici, c'est très bien de le reconnaître. C'est un geste important. Après, pour moi, où se situe vraiment l'enjeu, c'est pas tant de vouloir corriger en soi les affects racistes, des petites vibrations racistes qui peuvent te traverser ici ou là dans ton quotidien. Tu vois un salafiste à la télé, ou parce que... C'est pas tant, c'est surtout d'avoir la présence d'esprit qui n'a rien à voir avec la générosité, en fait, qui a à voir avec la justesse, ce qui n'est pas la même chose, de ne pas politiser ces affects-là. En fait, c'est ça la différence entre un camp identitaire ou un camp national identitaire ou une droite nationale identitaire et une gauche qui ne le serait pas. C'est pas tant que les gens de gauche soient moins racistes que les autres, c'est qu'ils décident de ne pas politiser ces affects racistes-là. Ils n'en font pas leur cœur de métier politique. C'est tout. Peu importe leur fort intérieur, par la suite, si le mec continue à avoir quelques doutes sur les Arabes, les Noirs, les machins, les jaunes, les bleus, la rigueur, ça appartient à la petite popote affective de chacun, de la même façon que chacun peut être traversé par des affects misogynes par moment. L'important, c'est est-ce que je vais politiser ma misogynie, en faire un discours politique. C'est ça qui tranche, en fait. Et donc, la décision radicale qui constitue pour moi le camp de la gauche émancipatrice, c'est pas tant de se nettoyer des affects racistes, c'est vraiment de mettre au centre de la question politique et sociale d'autres choses que les questions identitaires, nationales, culturelles, machin. Ça, c'est le geste pur. Et donc, mettre au centre, évidemment, exemplairement, la question sociale et la question de classe. Il n'y a pas d'autre antidote plus efficace à la centralité des questions identitaires ou culturelles, ou il y a plein de mots comme ça interchangeables, ou nationales, qui est imposée par le camp bourgeois, par le camp conservateur. Moi, je l'appelle comme ça, en fait. J'appelle ça le bloc libéral autoritaire. Moi, c'est, je trouve que c'est la meilleure façon de le résumer. Et donc, voilà, moi, quoi que je pense d'une femme voilée, quand il m'arrive d'être insupporté par la vision de trois femmes voilées qui passent sur mon trottoir à Paris, quoi que je pense de ça, si je m'arme, c'est ce que je dis, alors aussi, pardon, dans mon dernier livre, mais c'est ce que j'appelle la boussole sociale. La boussole sociale, c'est en toute chose... Je me guide en fonction de catégories sociales et non pas de catégories ethniques et culturelles. Donc moi, effectivement, quand je vois une femme voilée dans le métro, je sais qu'à coup sûr, elle a 90% de chances de faire partie du prolétariat. Et que donc, si je commence à stigmatiser une femme voilée, en fait, je stigmatise une prolétaire. Et donc, je ne le ferai pas, au nom de la centralité de la question sociale. Ouais, c'est ce genre de petites hygiènes qu'il faut se faire... Je comprends quand tu dis « je fais appel à une construction ». Si tu as la boussole sociale depuis 10, 15, 20 ans et que cette boussole, tu l'affûtes tous les jours parce qu'il faut l'affiner, il faut la travailler, en fait, ce réflexe te vient tout de suite, en fait. Immédiatement, cette boussole, elle est au travail, etc. Mais à la rigueur, tu vois, je fais vraiment une séparation entre tout ce qui peut nous traverser dans le quotidien, dans notre petite vie individuelle, et là-dessus, bon, c'est open bar, on a le droit d'être traversé par plein d'infects, en fait, j'ai pas de problème. Mais l'important, c'est ce autour de quoi tu vas constituer ton discours politique. C'est ça la clé. Ce qui permet, au passage, d'en finir avec la gauche morale, qui nous agace tous, qui m'agace depuis toujours. Moi, j'ai toujours voulu être de gauche sans être de gauche morale. Parce que finalement, la gauche morale, elle a tendance à toujours centrer les choses sur des affaires de morale. Bouh, le méchant raciste, alors que moi, je suis le gentil généreux. Moi, j'essaie autant que possible de situer la ligne de front ailleurs que là-dedans. Moi, je ne suis pas le gentil généreux qui ferait des leçons de morale aux méchants racistes. C'est pour ça que je mets beaucoup en avant, c'est peut-être tout aussi arrogant et prétentieux, mais je préfère cette prétention-là. Moi, je mets beaucoup en avant des questions de justesse. Voilà. Moi, ce qui m'attache définitivement à la gauche, à ce que j'appelle la gauche, c'est-à-dire sa version radicale, c'est que je pense qu'elle est plus clairvoyante que d'autres propositions politiques.
Dit la gauche, c'est pas François Hollande. Hein,
François Hollande est trop d'extrême gauche pour moi, donc je dirais une version plus modérée quand même que François Hollande.
PS, quoi, ou ce qu'il en reste. Hein.
Oui, bon, ne tirons pas sur un cadavre. C'est pas tant le PS en tant que tel. Et je pense que c'est des forces plus structurelles qui sont celles de la classe dominante plutôt que le PS, qu'on a été bon, le bras armé anecdotique, mais peu importe. Parce que je pense que c'est ça aussi qui a fini par rendre insupportable la gauche. Alors du coup, dans sa mouture sosdem droitière, ou même dans sa mouture plus radicale, elle est vue par beaucoup de gens, à tort ou à raison, mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, comme une espèce d'instance qui donne des leçons de morale. C'est absolument ça dont on doit se débarrasser pour être un peu plus désirable aux yeux de gens qui n'ont pas encore vraiment de religion politique toute faite et qu'on pourrait encore un peu convaincre de rejoindre le camp social. C'est surtout dire, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. C'est pas ça notre truc. Par contre, nous produisons une analyse de la société qui nous paraît plus clairvoyante, plus réaliste, plus proche du réel, notamment plus proche du réel des gens, de la façon dont les gens vivent véritablement, contrairement aux fantasmagories d'en face, qui sont des fantasmagories identitaires, patriotes, ou des fantasmagories comme le mérite, la valeur travail, tout ça.
Pendant la conversation, là, me venait un titre qui me semble tout à fait évident. Tu te souviens de la chanson des Satellites, Les idées faciles d'accès ?
Ouais, moi je suis toujours prêt à écouter les Satellites. Ouais. Ouais, voilà. Groupe un peu oublié d'ailleurs, je trouve, à tort.
Et pourtant.
Ouais.
Et si on est fils de divorcés ? Est-ce qu'on divorcera toujours un jour ? Et si se masturber en dessous ? Et si on racontait aux enfants que dans les bois l'agneau, le loup les attend. Si on leur racontait des conneries, si on les faisait un peu flipper.
En ce moment, je sais pas ce que je dis.
Dernière ligne droite avec François Bégodeau. C'est dommage, hein, parce que dans l'histoire de ta bêtise, voilà, on parlait aussi de ces gens qui se pensent de gauche. J'aurais bien aimé qu'on prenne le temps de parler des antivax. Moi, je suis entouré de gens que je sais intelligents, cultivés, et que je vois versés dans un irrationnel tout à fait insupportable. Alors, je comprends hein, que le vaccin, c'est pas une solution idéale et machin, mais putain, on vient de passer un an et demi enfermé en prison chez nous. Pour la plupart d'entre nous, j'ai pas envie de recommencer. Et ces gens contribue aussi à fournir au gouvernement le prétexte pour nous fliquer. De toute façon, le gouvernement n'aurait pas eu besoin des antivax pour nous imposer des passes et tous nous tatouer avec des codes barres et des QR codes. Mais en attendant, je pense qu'un certain nombre d'entre eux fournissent au gouvernement la justification de nous fliquer. Je suis assez furieux parce que ce faisant, ils empiètent sur ma liberté. C'est aussi un nouveau visage de cette bourgeoisie. Évidemment, quand tu as écrit Histoire de ta bêtise, il n'y avait pas encore eu la Covid et tout ce mouvement antivax et machin. Bon, que des cons pensent des conneries, c'est normal, c'est des idiots. Mais de voir des gens intelligents versés dans l'irrationnel à ce point-là, je dis, mais vous êtes complètement paumés. Et je pense qu'une des clés, c'est vous n'avez plus de grille d'analyse marxienne de la société. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de capital. Si, il y a quelques méchants milliardaires qui flottent avec Jeff Bezos dans la stratosphère. Vous êtes en colère, vous avez raison d'être en colère, mais en fait, vous n'avez plus l'analyse de savoir contre quoi vous devez vous mettre en colère. Et ça m'attriste.
Bon, là, nous avons affaire à un phénomène de société qui a cours depuis 6 mois. Ça fait beaucoup parler, beaucoup de gens se positionnent. Sur tous les plateaux de chaînes d'info, il est beaucoup question de cette question. Il y a des gens qui sont plutôt pro-antivax, d'autres qui sont très très révulsés par les antivax, comme tu sembles être en partie. Ma façon de procéder, c'est de... Je ne vais pas dire de prendre du recul, parce que ça fait toujours un tout petit peu condescendant. Moi, je ne suis pas dans la mêlée, je prends du recul. Mais par contre, je vais essayer d'aller à la cause des causes. Prendre ce phénomène presque comme un phénomène animal et biologique, et de voir en fait c'est quoi le problème. Tu fais la moitié du chemin déjà, pour moi, en disant ils ne produisent pas une analyse marxienne de la société. Comment se fait-il qu'ils ne la produisent pas? Comment se fait-il que cette pulsion contestataire qu'ils ont, parce que ce en est une colère, machin, tu vois, ne va pas s'armer d'une analytique marxienne? Qu'est-ce qui se passe, en fait, là où en d'autres temps, c'était une analytique qui était plutôt à disposition et qui était plutôt beaucoup investie par tout un tas de gens, puisque c'était voilà, la grande époque du mouvement social, etc., le mouvement ouvrier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, moi, je pense fondamentalement au cœur de la chose, c'est que j'ai l'impression que les gens fabriquent leur imaginaire politique hors de leur situation de travail. Voilà, pour moi, la clé. C'est pas à partir de leur situation de travailleur qu'ils pensent leur position sociale et donc, par extension, leur position politique. C'est à partir d'une autre position, qui est une position d'isolement et qui est une position très largement d'internaute. Parce qu'en fait, c'est pas autre chose que ça. Pendant tout un temps, pourquoi il y a eu un grand mouvement ouvrier à une époque? Parce que d'abord, il y avait beaucoup d'ouvriers, et puis en plus, ils travaillaient dans les mêmes lieux. Et dans ces lieux-là, ils parlaient entre eux. Et de quoi ils parlaient? Ils parlaient de leur travail. Ils parlaient aussi du match de foot du soir, mais ils parlaient beaucoup de leur travail. C'est ça qu'ils avaient en commun. Et donc, leur identité politique s'adossait beaucoup à leur situation de travailleurs. Et donc là, ils étaient des marxistes objectifs. Ils se pensaient immédiatement comme soumis à un certain régime du travail, à un employeur, à un rapport de force avec les actionnaires ou avec les cadres, machin. Si inversement, cette scène du travail est totalement mise en marge de la réflexion politique et que donc on va fabriquer la réflexion politique à partir de quel réel, puisque c'est plus le réel de moi en tant que travailleur, c'est quel réel? Ben, c'est cette espèce de réel en deuxième main qui s'appelle « ce que je vois en surfant sur le net » ou en regardant la télé, mais c'est un peu has-been maintenant la télé. Et c'est là que du coup l'énergie contestataire va plutôt s'orienter vers des constructions discursives qui n'ont plus rien à voir avec la situation du travail ou avec le réel que vivent ces gens, mais plutôt avec des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur vie, en fait, mais qui vous racontent que les labos pharmaceutiques sont en train d'organiser un complot mondial pour nous imposer des vaccins, et blablabla. J'ai pas beaucoup de respect pour, et de sympathie pour les labos pharmaceutiques, hein, que les choses soient claires. Pour moi, c'est ça le cœur de la chose, si tu prends les choses du côté de comment vivent les gens véritablement. Et à partir de quoi ils pensent. Si tu penses à partir d'Internet, ça produit mécaniquement une espèce de colère qui un jour se portera contre le complot juif mondial, puis un autre jour contre les labos qui ont pratiquement provoqué la pandémie pour pouvoir reforguer leur matériel. Parfois tu tomberas sur le fait que la Terre est plate. C'est ça qui se passe. Alors que si tu penses à partir de ton réel, et notamment ce qui est le cœur de ta vie sociale, à savoir comment tu bouffes, ben, mécaniquement, t'en arrives à d'autres analyses. Donc, moi, donc, je pense que c'est le péché originel, quoi. Ce qui nous a foutu dedans depuis 30, 40 ans, et une des explications profondes de la droitisation de la société française, c'est celle-là. C'est l'atomisation du monde du travail, et c'est le fait que On pense politiquement à partir d'une position qui est celle d'un spectateur isolé le soir, surfant sur Internet ou zappant sur des chaînes d'infos.
Oui, depuis son nombril.
Moi, je suis pour qu'on pense à partir de son nombril. Hein.
Une société, c'est un ensemble de nombrils.
Pour moi, le problème n'est pas de penser à partir de son nombril ou pas. Ça, c'est encore donner une leçon de morale. C'est pour ça que je me méfie. Parce que c'est tout de suite dire, ouais, ils sont égoïstes, il faudrait être altruiste. Mon problème n'est pas de penser à partir de son nombril. Et moi, je pense qu'en bon Nietzschéen, en bon lecteur de Montaigne, je suis pour qu'on pense à partir de soi. Bon. Mais par contre, il faut bien comprendre son nombril. Pour moi, le débat est entre une mécompréhension de son nombril et une bonne compréhension de son nombril. Et ces gens-là, qui pensent que leur grand problème actuel, le grand problème de leur nombril, c'est qu'il y ait des labos qui imposent des vaccins, se trompent sur leur nombril. Ils ont mal écouté leur nombril. Parce que leur nombril, je pense qu'ils souffrent beaucoup plus du fait de travailler 8 heures par jour, du fait de se faire emmerder par un manager. Je pense que leur nombril souffre beaucoup plus des 2 heures qui passent dans les transports en commun pour aller au boulot et se faire exploiter.
Leur nombril qui manifeste pas beaucoup, leur dit rien sur la retraite des parents qu'on est en train de péter, sur l'hôpital qui est en train de fermer des lits, sur l'école qui tombe en couille.
Leur dirait peut-être un peu plus davantage ça s'ils allaient davantage à l'hôpital. Et que, bon. Mais encore une fois, moi je pense que c'est ça le truc. C'est très bien de partir de sa propre situation réelle pour se penser politiquement. Ma colère sociale, elle est beaucoup venue, elle a été beaucoup alimentée, pas seulement, mais beaucoup alimentée par le fait que moi François, 23 ans, je voulais faire du punk rock et j'ai été obligé d'enseigner. Tu vois, ça, c'était mon nombril, ça. Je veux dire, c'est pas la misère du monde. Et c'est à partir de ce nombril que j'ai commencé à systématiser, parce que j'avais quand même des bases avant, hein, mais systématiser ma pensée de ce que c'était que le totalitarisme marchand, qu'est-ce que c'était que la distribution des valeurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut bien écouter son nombril. Et j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de gens ne sont pas véritablement à l'écoute de ce qui les fait véritablement souffrir. C'est ça le problème. J'ai rencontré des antivax récemment. Moi, je veux pas trop rentrer dans ce débat-là, parce que pour moi, c'est un peu miné, mais. Récemment, je présentais mon film autonome à Redon, et des mecs débarquent au début de la projo pour dire à quel point ils ne pouvaient pas rentrer puisqu'ils n'avaient pas de passe, puisqu'ils n'étaient pas vaccinés. Et donc, ils étaient venus exprès pour signifier qu'ils auraient bien voulu voir autonome, mais ils ne pouvaient pas le voir parce que... Bon, je commence à discuter avec eux, ils voulaient que moi, je demande au cinéma de les laisser passer. Je dis, attends, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Bon, bref, discussion. Et là, ils me font la totale. Et il y en a une qui me dit, notamment, qui était un petit peu illuminée quand même, me dit, c'est ce qui nous arrive de pire depuis l'après-guerre en France. Je lui regarde comme ça dans les yeux, je lui dis, mais vraiment, vous là, personnellement, vous là, madame, 45 ans, je sais pas, la pire douleur que vous avez ressentie depuis que vous êtes un adulte, par exemple, la pire oppression que vous avez subie véritablement dans votre corps, c'est qu'on vous a imposé un pass sanitaire. Mais je lui dis, mais votre vie, elle est cool. Hein. Donc en fait, vous n'avez jamais été humilié au travail, vous n'avez jamais été humilié à l'école, vous n'avez jamais été humilié par un homme. Vous n'avez jamais subi, je sais pas, l'oppression de classe? Et elle me dit, non, pas autant que ça, là vraiment, là, le pass sanitaire, c'est le truc le plus horrible qu'on aurait pu m'imposer. Clairement, cette femme délirait. Ou alors, elle a une vie sociale géniale depuis 20 ans. Enfin, je veux dire, elle est super heureuse au boulot, son mec est formidable, ses enfants la font jamais chier, c'est pas elle qui se tape le ménage à la maison, elle est super sa life, quoi. Sauf que j'en doute, en fait. Elle se méprend sur sa propre douleur. Voilà. C'est ça qui se passe.
Ça va être cruel de juste de consacrer quelques mots à Notre joie, ton dernier bouquin. Il m'a fallu un mois pour lire Histoire de ta bêtise. Et donc du coup, comme j'ai travaillé longtemps à Radio France et je sais parler d'un livre que j'ai pas lu, je me suis fait spoiler un petit peu par Brice de Gotcheese, Notre joie. Il m'a discerné à peu près deux grandes parties. Il m'a dit, ouais, bon, première partie, il s'est fait draguer par un soralien. Et puis deuxième partie, il raconte des choses, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir construire une lutte joyeuse. Et tout de suite, deux images me sont venues. Cet été, j'ai discuté avec Didier Super, il m'a dit, putain, les boules, il y a des fachos qui adorent mes chansons. Et puis la deuxième partie, je ne sais pas si c'est pertinent, mais sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'interview en longueur un zadiste, voilà, sur la démocratie horizontale, sur comment vous faites, comment ça se fait que depuis 10 ans, vous arrivez à tenir sans hôpitaux psychiatriques, sans palais de justice, sans flics. Si votre expérience avait été branlotante, vous auriez tenu même pas 15 jours. Comment vous avez fait pendant 10 ans? Et donc il m'a raconté, évidemment sur la ZAD il y a des mots, faut pas prononcer, démocratie, tout ça, oulala, pas bien. Enfin, n'empêche que c'est quand même ce qu'on pratique, mais sans le dire. Puis au bout de 2 heures où il me raconte comment ça fonctionnait sur la ZAD, je dis bon, bah, merci beaucoup pour tout, et je ferme mon magnétophone. Et le mec me prend par la manche et me dit, rallume, j'ai oublié de te dire l'essentiel en fait. Tu m'as demandé tout à l'heure comment on a fait pour tenir des hivers entiers avec pas de toit au-dessus de nos têtes, juste des bâches au-dessus de nos têtes à se geler, couilles et ouverts dans la gadoue du bocage, mais parce que tout simplement, on avait de la joie à être ensemble. Friot le dit aussi, en finir avec les luttes défensives. C'est pour ça aussi qu'on perd tout le temps, c'est parce qu'on sent dans la rue pour dire « un gouvernement est méchant, machin », mais en fait, et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à gagner quoi que ce soit, ni à fédérer quoi que ce soit, en défilant sous un bonnet de nuit. Alors est-ce que notre joie parle de ça ?
Écoute, tu en fais un très bon... une espèce d'analyse sans l'avoir lu, parce que oui, de fait...
Tu as besoin de Radio France, mon vieux. Hein.
Ça aide beaucoup, mais même quand ils n'ont pas lu, ça se voit beaucoup plus que toi, hein, quand même. Non, puis en plus, Bernard Friot est une figure centrale dans ma deuxième partie, donc tu vois, ça tombe bien. Moi, j'ai toujours mis en avant dans la lutte politique le fait qu'elle n'était pas sacrificielle, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas dans une manif ou quand tu participes à une grève, il y a une espèce comme ça de martyrologie des luttes sociales qui consiste à dire on prend sur nous, on a le courage de lutter, on va avoir la vaillance de lutter envers et contre la difficulté qui nous est faite. Bien sûr que non. Tous les gens qui sont pris dans des grèves, dans des mouvements sociaux, des choses comme ça, ce qui les active avant toute chose, c'est la grande joie d'être là. C'est la grande joie, pour une fois, d'inventer des rapports sociaux, provisoirement un petit peu différents de ceux qui régissent habituellement le monde du travail, tu vois. Ça, c'est une grève d'un seul coup, on se met à se parler, ce que racontaient très bien les Gilets jaunes sur les ronds-points, tu vois, par exemple. On se parlait pas, on se parle, quoi. Et ils avaient plus envie de partir du rond-point, même si je gelaient un peu les couilles et les ovaires, comme tu dis, parce qu'ils y trouvaient une sorte de fraternité, même la manif, l'adrénaline de la manif, elle est puissante en elle-même, indépendamment de ses buts. Et on voit bien que ce qui nous mobilise, ce qui nous active dans les mouvements sociaux, c'est la joie d'en être. D'abord, c'est des multiplicateurs de fraternité, de pensée, d'intelligence, de la situation. Donc c'est à ce titre-là que moi j'ai souvent dit, pour moi, les mouvements sociaux réussissent toujours, sont toujours des réussites, même si, à la fin, ils n'obtiennent pas ce que censément ils demandaient, mais qui était peut-être pas forcément le vrai objectif, en fait. Un mouvement social, c'est toujours une victoire. Son existence même est une victoire, parce que de fait, de toute façon, dans le présent même de ce mouvement, il se passera tout un tas de choses extrêmement émancipatrices. Donc, non, ce que disait ton pote de la ZAD, si je l'avais su, j'aurais pu le citer dans Notre Joie, à titre d'exemple de ce que j'essaie démontrer.
Et ben on a commencé cette conversation par la joie du rock'n'roll de Didier Wampas, la joie, et puis on la termine avec Notre Joie. Merci beaucoup, François Bégodeau.
Merci à toi.
À trop bientôt.
À trop bientôt.
Et voilà les amis, ça fait du bien, un peu d'intelligence politique dans ce monde crétinisé. À lire donc Notre Joie, le dernier essai de François Bégodeau, à voir son dernier film, intitulé Autonome, conversation à réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.